Il pleut sur Angers. Vous avez été d'une humeur maussade toute la journée. Votre seul rayon de soleil, il faut bien vous l'avouer, c'est nous. La sinistrose fait une petite pause. Alors que le couvre-feu s'instaure, vous vous êtes installé au fond de votre fauteuil. Le chat réclame sa pitance, le radiateur gargouille, la lumière est tamisée, la radio s'excite. Il est 21h passé de quelques minutes, quelques secondes. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 et vos nouveaux complices sont avec vous, Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Et maintenant, générique, maestro.
Alors là, c'est Julien qui fait des grands
Julien
signes.
Julien faisait des grands signes parce qu'il fallait passer le deuxième sonore.
Pardon. Il arrive à pied, le sonore.
Asshole! Disappointed! I'm thinking!
Don't ever. Ever call me stupid, okay? Ecco l'uomo. Le due cupole grandi della cattedrale di Milano.
Les cinéphiles les plus avertis auront reconnu un florilège du personnage d'Otto West. Otto, dans Un poisson nommé Vanda. L'Américain déluré est ici interprété par Kevin Klein, qui obtiendra pour sa prestation prodigieuse l'Oscar du meilleur second rôle. Ajoutons qu'il donne la réplique à John Cleese et à Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Passons. Je ne souhaite à personne de faire l'amour avec un amant qui déclame du volare à tue-tête, et plutôt faussement. Berchtora, une femme qui parcourt les premières pages des Roses de la nuit, vous dirait certainement que faire l'amour dans un cimetière peut amener aussi son lot de désagréments. Comme, par exemple, découvrir le corps d'une jeune femme sur la tombe de John Sigurdsson, le héros de l'indépendance. Ah oui! Il faut vous dire que Les Roses de la Nuit, c'est le nouveau roman d'Arindur Indridason paru en cette rentrée littéraire chez Métellier. Enfin, nouveau roman, c'est vite dit, il a été écrit en 1998 et c'est de fait le second de la lignée des aventures du commissaire islandais Erlendur. Alors, Pour celui qui, comme moi, a découvert les romans policiers islandais avec La Cité des Jars et les suites qui en ont découlé, revenir en arrière, c'est surtout redécouvrir les fondamentaux. Ici, l'intrigue est resserrée, et surtout, foin du blabla domestique des personnages qui ont une vie super compliquée, qui ne s'arrange pas d'épisode en épisode. Et ça fait du bien. Il y a bien sûr toujours cette lenteur dans l'enquête qui nous éloigne du coitus interruptus inaugural.
Du pardon ? Du quoi ?
Coitus interruptus, tu sais...
Oui, je vois bien, oui. Excuse-moi, je vais être distraite.
Ah, d'accord.
Je t'en prie, vas-y.
Non, mais c'est... On pourrait en reparler, mais c'est très court. Une jeune femme est morte, et ce qui importe, c'est de savoir pourquoi. Surtout que cette jeune femme, elle a franchement l'âge de Greta Thunberg, l'âge donc d'aller à l'école, mais la drogue et la violence en ont décidé autrement. L'équipe du commissaire va patiemment remonter les fils variés des pistes qui s'imposent à eux. Il y aura une histoire de quota de pêche, on est en Islande, une autre de proxénétisme, on est en Islande mais ça pourrait être ailleurs, et une autre qui mêle politique, construction et corruption, bah là aussi on est en Islande mais ça pourrait être vraiment ailleurs. Et puis, il y a une amitié qui traverse le tout. L'occasion pour le lecteur de croiser de nombreux portraits de personnages ravagés et singuliers, toujours islandais, avec en filigrane ce fameux point de bascule qui nous interpelle. Le constat est toujours aussi amer. Quel que soit le lieu, le monde est toujours le même. Mais pour vous évader de notre monde, rien de tel que de croiser des Islandais dépressifs et déprimants. Alors, laissez-vous tenter. Linda, je crois que c'est à toi sur cette bonne parole.
Très tentant. Ah, d'accord. Alors, c'est à moi. Alors, si je vous dis Le cri du peuple, je sais qu'il y en a plusieurs sur ma droite. Oui, Luc.
Oui, Tardy.
Tardy, mais avant Tardy, tu en as parlé tout à l'heure.
Vautrin.
Et avant Vautrin, donc, l'inspiration.
Je sais, je suis bloqué là.
C'est vrai
le nom basque.
Mais non. Le cri du peuple, le journal de Jules Vallès.
Bon sang, mais c'est bien
ils
sûr.
Ils sont gentils, ils font comme s'ils ne savaient pas. Alors, effectivement, c'est d'abord le journal de Jules Vallès, donc, qui a été créé juste avant la Commune de Paris, février 1871.
Décidément, tu tiens la Commune, toi.
Hein. Ouais, mais c'est ma période. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas faire l'année dessus.
Pourquoi ta nouvelle Commune?
J'arrête avant les municipales. Et puis, Le cri du peuple, effectivement, vous en avez parlé, c'est le roman, enfin, un roman de Vautrin. Et là, moi, ce soir, je vous parle de l'adaptation en bande dessinée par Vautrin lui-même et Tardy. Voilà. Alors, ce sont 4 tomes, tout en noir et blanc, sauf sur les couvertures, quelques touches de rouge. On a le drapeau de la commune et le rouge du sang, puis le bleu de l'uniforme des soldats qui entrent dans Paris et celui du drapeau français, du pouvoir. 4 tomes qui démarrent le 18 mars 1871, jour d'espoir, où les soldats ont refusé de tirer sur les Parisiens. Parisiens qu'ils sont censés protéger, normalement la guerre c'était contre la Prusse, enfin bref, j'en ai déjà parlé. La crosse en l'air, donc. Le tome 4, la fin, ça s'achève dans le bain de sang, l'évocation de la semaine sanglante de fin mai. Les déportations et autres exactions, bref, autre joyeuseté. Donc, naissance, vie et mort de la généreuse utopie inventée par le peuple de Paris. On a une intrigue policière, une autre amoureuse, une vieille vengeance inassouvie, des flics pourris, notre mère, l'église lavée dans son impunité, des politiciens menteurs, ça n'arrive jamais, d'autres portant l'honneur jusque dans la mort, à l'instar d'un Charles de l'Écluse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Charles de l'Écluse. C'était quelqu'un de très intègre et qui a préféré, en fait, à la fin, aller au-devant des balles sur une des dernières barricades quand il a su qu'il n'y avait plus d'espoir, plutôt que de se rendre au Versaillais. Quoi.
Il avait bu le calice jusqu'à la lie de l'Écluse.
Il y a un jeu de mots.
Je ne sais pas quoi.
Non, je passe peut-être. Oh, donc, on a des personnages célèbres. Par exemple, Georges Clemenceau, Gustave Courbet, oui.
Oui, ça, enfin, ça.
Ouais,
c'est...
Donc le peintre. D'ailleurs, il y a une allusion, plus qu'une allusion, on a une représentation de l'origine du monde. Ouais, à ce moment-là, je laisse ceux qui connaissent pas le plaisir de découvrir. Hein, c'est très évocateur. Puis
surtout,
on a...
Surtout, il faut bien leur dire qu'il ne faut pas aller chercher à voir une reproduction sur Facebook. C'est plus possible. Facebook, ils enlèvent.
Ah là, c'est censuré, oui, ça c'est clair. Ça va donner envie.
Il vaut mieux aller à Orsay et comprendre qu'en fait, ce qui est intéressant dans le tableau, ce n'est pas tant ce sexe que l'on ne
connaît pas. Oh, mais t'as vendu la mèche, toi.
Bah oui, désolé. que les petits détails, comme il y a un grain de beauté sur cette personne nue et ça fait toute la différence.
Dis donc, ça prend une tendance ce soir là, entre l'interruption de tout à l'heure et puis celle-ci. Enfin bref, je vais essayer de raccrocher mes wagons. Donc j'avais parlé de Jules Vallès, justement, le fameux Jules Vallès, journaliste, on va dire socialiste, voire mais socialiste de l'époque, hein, pas socialiste actuel, donc presque anarchiste. Élu pendant la Commune, grand défenseur du droit d'expression, et puis plein d'autres encore. Alors on a l'encre noire de Tardy qui gicle, brouille, incruste, incise, avec générosité et respect. On a des instants de vie pulvérisés dans l'histoire avec un grand H. Et il y a des portraits de femmes en vois-tu, en voilà. Alors là, je vais me faire plaisir ce soir en vous décrivant les figures de femmes. On a des femmes visionnaires portées au combat de l'égalité, dont on n'entendra plus parler après, hein, faut quand même pas pousser. Par contre, une Louise Michel, à qui on reproche sa laideur. Alors, comme si la laideur avait empêché, par exemple, Adolphe Thiers d'être président du Conseil, chef du pouvoir exécutif. Est-ce que vous avez déjà vu des caricatures d'Adolphe Thiers?
Il n'est pas brillant.
Il n'est pas beau.
Ça donne pas envie.
Et puis, alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous donne juste ces petits sobriquets de l'époque. Ça aide à visualiser. Adolphe le Petit, l'infâme vieillard, le foutriquet, le petit Jean Foutre, etc.
C'est fou, hein, Adolphe, ça a des connotations quand même quand dingue, on réfléchit. Hein.
Bref, en tout cas, les femmes laides doivent la fermer. Bon, par contre, on dit aussi, sois belle et tais-toi. Donc, je ne sais pas, pour résumer, peut-être femme, belle ou moche, tais-toi. Hein. Même chez certains anarchistes, hein, d'ailleurs, au passage, hein, merci Proudhon. Voilà, je passe. Donc, on a d'autres femmes outils de plaisir. La mamelle de velours, le cul affolant. Attention, le mâle pisse partout ses torrents de violence pour délimiter son avoir. Ce sont des femmes bien dressées, harnachées dans des soies et des dentelles, lâchées sur la rivale émancipée pour lui cracher le mépris de son raffinement. Coup de parapluie, yeux crevés, vagin violé au goulot, berk, berk, berk. Déchaînement autorisé avant retour au bercail, coucou panier. Jeunes femmes cachées par une bourgeoisie embarrassée, maltraitées jusqu'à la folie, enfermées jusqu'à leur fin. Femmes encore nettes, geôlières de ces inconscientes fautives, mal engrossées et jugées demeurées. Femmes qui soignent, ambulancières, cantinières, femmes qui pensent, rafistolent, défendent jusqu'à expurger l'espoir, car elles sèlent gâchis. Femmes guerrières, femmes qui refusent de mettre le genou à terre, son enfant chéri dans les bras, elle hurle sa dignité devant les chassepots, regarde dans les yeux le beau monde, bien pensant, à bout portant. Femme réduite à la reproduction, reproduire sans réfléchir, sans fléchir et fournir. Pour illustrer le propos, ces quelques mots d'Alexandre Dumas, fils, qui ont été publiés dans le Figaro en 1871. Il parle donc des communards et des communardes. Je cite « Je ne dirai rien de leurs femelles par égard pour les femmes auxquelles elles ressemblent quand elles sont mortes. Alors moi j'ai toujours un petit peu besoin de respirer après, hein, quand j'ai dit la phrase, hein, vous m'excuserez. Femme femelle, femme qu'on traite de femelle, bon, alors que justement on leur demande, enfin ce qu'on attend d'elles, c'est de n'être que des mamelles allaitantes, ventre fertile en mâle de préférence, minette de compagnie obéissante, brebis attentive, mais il n'y a pas de mais, comme disait, bref. Je vais finir là-dessus. Le cri du peuple de Tardy et Vautrin, pour moi, c'est un hommage aux anonymes qui combattent pour l'égalité. Un cri bien vivant, fidèle à l'épitaphe de Jules Vallès. Ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction.
J'en ai passé des nuits bleues, fond déverser en pure perte de temps mes erreurs sur ton répondeur débranché. J'en ai passé des numéros, enfin virer faux, à croire au mirage, je t'ai pas dans ma cage, l'escalier. T'as beau dire, t'as beau faire, t'as beau mentir ou te taire. Quand vient le noir, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. J'en ai passé des nuits brunes, des nuits rouges, des nuits sans lune. J'en ai passé des nuits jaunes, des nuits graves, des nuits de zone. J'en ai passé des nuits grises, des nuits glacées. J'en ai passé des nuits d'or, des nuits encore et des matins clairs. Et des matins
sur Radio G, sur le 101.5 FM. C'était Tokyo Overton et non pas Hotel, qui vous chantait de toutes les couleurs d'après des paroles de Marcus Malt pour ramener un peu de luminosité à toute cette austérité ambiante. Mais c'est déjà l'heure de notre débat DVD.
Et vous êtes sur Calibre 58.
Et oui, alors play it again, Luc, et continuons sur un mode mineur italien. Viva Django de Eduardo Mulargia avec Anthony Stephen, aussi surnommé, ça ne vous en déplaise, le Clint Eastwood italien chez Artus Film.
Ouf. Ah bah oui. Ouf. Bah moi je pense qu'il a pas volé son surnom parce que vraiment en fait ils ont réussi à avoir leur Clint Eastwood, les Italiens, avec le même cigarillo, le même regard
impénétrable.
Impénétrable. le même, non pas le même humour, mais c'est du clonage un peu de Clint Eastwood, de Clint Eastwood période donc Western Spaghetti. Et j'ai trouvé ça pas inintéressant. Mais
est-ce que tu as découvert dans ce film un scénario?
Non, je peux pas dire que je l'ai découvert. J'ai eu l'impression de plusieurs redites. T'as tout le début qui est clairement le bon, la brute et le truand. Alors je ne sais pas si c'était fait avant ou après, ça serait intéressant de savoir.
C'est
ça.
C'est fait avant, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est fait avant.
Donc c'est lui qui a inspiré Sergio Leone. Oui. Ah d'accord.
Ou pas, on ne sait pas si Sergio Leone a vu ce film. On peut pas miser sur le film.
Je demande à Joker, là. Je demande à Joker.
Mais c'est marrant parce qu'effectivement, tu vois tout le début du bon, la brute et le truand, c'est le même principe.
Je peux juste faire un petit intermède par rapport à... Ça me fait penser à Clint Eastwood.
Oui.
J'ai vu dans Rubrique à Braque, sur les westerns, il y a un moment donné, il y a un dessin de Clint Eastwood et Gottlieb écrit « Toute ressemblance avec Clint Eastwood est une pure coïncidence ». Voilà, c'est tout.
Gottlieb sauve la soirée.
Pour moi, le vrai exploit qu'il y a dans ce film « Viva Django », c'est le passage où on voit Django qui dort et puis qui se réveille. Et on s'aperçoit qu'il a dormi donc assis, le dos adossé à une roue de charrette et les fesses sur des cailloux, tout ce qu'il y a de plus dur et en plein soleil. Moi, je trouve ça relève de l'exploit.
Il y a quand même beaucoup d'exploits dans ce film. Moi, je trouve que d'abord, le nombre de figurants qui surgit de tous les côtés, tout le temps, partout. les revolvers dans les Western Spaghetti doivent être au moins chargés de 27 balles, ou 28, je ne sais pas.
Oui, il y a de la ressource.
Le nombre de morts qu'ils sont capables de tuer en 5 secondes, même Stallone n'est pas capable de le faire avec
Stallone, voilà. c'est un amateur.
Donc, voilà. Non, le film...
Stallone, il n'a pas compris, en fait. Il ne sait pas.
C'est vrai qu'il n'a pas vu peut-être les Western Spaghetti, ça c'est sûr. En tout cas, ces Western Spaghetti-là, qui sont... c'est terrible, parce que il y a peut-être un scénario, peut-être. En tout cas, il y a une histoire, ça c'est sûr, qui joue beaucoup sur le sexe et la violence. Alors c'est récurrent, puisqu'on le retrouve dans d'autres westerns par la suite. On est face à des personnages qui sont... moi j'ai l'impression que c'est des personnages à deux dimensions. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de personnalité, pas d'âme.
La dramatique
La dramaturgie. Il n'y a pas de dramaturgie. En fait, c'est... il y a l'effet dramatique récurrent dans ces films-là. C'est que, comme on ne sait pas faire autrement, c'est le zoom qui sert à faire un effet dramatique. Et à chaque fois, un coup de zoom sur les yeux... des yeux bien froncés, là. Et comme on n'a pas bien compris, c'est pas un coup de zoom, mais c'est toujours deux coups de zoom qui vont cadrer les yeux pour nous faire comprendre que soit le moment est dramatique, soit le héros réfléchit, parce que le héros réfléchit. Donc, voir un film comme ça, c'est soit rafraîchissant, soit quand même une épreuve.
Hein. Alors... Moi, je vais, évidemment, grand pondérateur que je suis.
Oui, t'as raison. Modère.
Il y a une chose qui marque, c'est, il y a des bons acteurs. Deux, ils n'ont pas de direction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de directeur d'acteurs, alors qu'il y a des acteurs qui sont plutôt honnêtes dans leur second rôle. C'est plein de second rôles qui sont magnifiques. On sent que le montage, il a été fait à la serpe. C'est un peu à la machette ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme coupe dans ces
Italie c'est des rasoirs hein.
Oui en rasoir mais là encore comme là on est plutôt tu vois dans une des régions des États-Unis je cherchais quelque chose
c'est des machettes hein.
Mais t'as les scènes qui s'accumulent les unes les autres un peu sans lien et c'est dommage. Après le film il peut se résumer à un seul aphorisme qui aime bien trahit bien, voilà.
Oui.
Parce que c'est trahison en chaîne, trahison, enfin le truc. Et puis de temps en temps, on nous met un truc comique, mais n'est pas mon nom et personne qui veut.
Oui.
Mais pareil, on a la même chose. On a tout ce qui fait un bon western spaghetti, sauf quelque chose.
Sauf effectivement qu'il manque un réalisateur derrière.
Après, on peut ajouter que donc c'est chez Artus Film et que l'avantage qu'ils ont chez Artus Film pour ce film-là, c'est qu'ils en ont fait une combo DVD avec ce qu'on appelle un booklet à l'intérieur avec plein de photos. Moi qui suis un grand amateur des affiches de films, force est de constater que ce qui est le plus réussi dans ce film, c'est l'affiche. Et c'est ce qui était important pour que les gens se précipitent au cinéma. Parce que le film populaire, c'est ça aussi. Ça ne doit pas forcément être bien fait, mais ça doit être bien vu.
On parle de quelles années, là ? Parce que là, en fait, il est sorti quand, la première fois, ce film ?
Il est sorti en 71.
71 ?
Oui, c'est étonnant. Hein.
Non, c'est pas étonnant du tout.
Pourquoi ?
Mais parce que, je veux dire, le western était un genre mineur à cette époque-là. Comment il s'appelle ? Orson Welles, il faisait pas de western. Et les gens qui allaient voir les westerns, ils regardaient pas des films d'Orson Welles. Donc aujourd'hui, on voit ce DVD avec le recul. Mais sur le coup, si on avait été amateur de western, je suis persuadé qu'on aurait été très content de voir ça.
Oui.
Oh, Linda, surtout avec l'image de la femme dans le western. Je pense que ça lui aurait bien plu.
Ça me plairait bien. Alors, moi, ça faisait penser. C'est marrant, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai regardé Fury au Missouri. Et j'ai le truc des gros plans sur les yeux. Oh, il est pas content, il pense, tout ça. J'avais exactement la même chose. C'est plus du Stabilo Boss à ce stade-là, quoi.
Non.
C'est vraiment. Wow.
C'est du Stabilo Big Boss pour faire des choses.
C'est ça, c'est vraiment lourdingue.
Ouais.
Bon, bref.
Mais tu t'es bien amusé quand même.
Pour.
Fury au Missouri.
J'ai craqué avant la fin.
T'as craqué avant la fin.
Ce qui est étrange dans Fury au Missouri, donc autre western spaghetti, c'est que, mais j'ai pas eu le temps de revoir les deux, mais je suis intimement convaincu que le cadre de l'action, donc les deux décors, sont exactement les mêmes. C'est tourné...
Ah, c'est très possible.
Alors c'est 67, ouais. Le Fury au Missouri.
Fury au Missouri, c'est 67, mais l'hacienda dans lequel se déroule une partie de l'action, c'est, je suis convaincu que c'est la même. Il y a le même portique, enfin, il y a le même portail. Enfin, c'est assez surprenant. Donc, 4 ans d'écart, les mecs, ils utilisent le même décor.
C'est extraordinaire.
Ah, ils ont compris ce que c'est que la rationalisation.
Ça s'appelle de la récupération. Et dans une année là où on fait un peu d'écologie et tout, c'est pas mal.
Oui, oui.
Petit peu. Voilà. Sans transition, on passe à Khartoum de Basil Dearden avec Charlton Heston et Laurence Olivier. Alors, qu'en avez-vous pensé? Pour résumer quelque peu, on pourrait dire que c'est un Lawrence d'Arabie qui aurait croisé les 55 jours de Pékin.
Pas mal.
Un avis, Toups?
Bah déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle photographie. Et pour qui n'est jamais allé en Égypte comme moi, c'est toujours quelque chose d'assez... Alors après, ça joue... Là, c'est du cinéma. On peut aimer, pas aimer, mais après tout, on n'est pas là pour dire si on a aimé ou pas. Mais là, il s'agit vraiment de cinéma, clairement.
Ouais, c'est marrant parce que au début j'ai eu un tout petit peu peur parce que la voix off démarre direct sur ce méchant Mahdi qui a une façon de se battre, qui est vilaine, machin, etc. Je fais ouais, enfin il y a quand même une omission quand même d'un demi-siècle d'occupation par les Égyptiens, etc. Et en fait après c'est complètement, je trouve que c'est assez bien mis en contre-pied. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'analogie, en fait la confrontation entre lui va rien lâcher sur sa croyance, donc le musulman, et puis en face le chrétien qui se rend compte que finalement je fonctionne pareil, quoi. Et ça, je trouvais ça assez finement amené, puis ça joue bien, quoi. Enfin moi j'ai trouvé vraiment tous les premiers rôles. Alors effectivement, il y a Charlton Heston et Laurence Olivier. Il y a Richard Johnson qui joue très très bien, là, le Stewart, je ne sais plus comment c'est, capitaine ou je ne sais plus comment.
Est-ce que tu trouves que Laurence Olivier, il a le charisme d'un rebelle enfin, je veux dire, ils lui ont teint...
c'est un peu forcé, on lui a demandé de faire ce qui... C'est pas le personnage le mieux développé, je suis d'accord avec toi.
Surtout qu'il est quand même un peu sous... Vraiment... Enfin, je dirais pas sous-exploité, mais c'est quand même Maxime de Winter dans Rebecca, quoi. Et puis là, tout d'un coup, tu le vois là, t'as du mal à y croire quelque part, non?
J'ai trouvé ça un peu en dessous, mais j'irai pas jusque là parce que je trouve que l'ensemble, c'est de toute façon. Après, ça arrive aussi en tant que comédien. Il y a des fois, on est moins bon. Hein. On n'arrive pas à trouver le truc, quoi. Mais j'ai trouvé quand même que la globalité, ça. Enfin, moi, ça m'a bien tenu, puis c'est quand même 2h15. Hein.
Ouais, ce qui est terrible avec ce film, hein, c'est... on ne peut pas ne pas penser à Laurence d'Arabie.
Ah ben, c'est clair.
Ce sont les deux mêmes histoires, quasiment. Elles se passent à très peu de kilomètres d'écart, hein, finalement, l'une et l'autre.
Je précise juste, là, on est au Soudan, parce qu'on ne l'a pas dit. C'est Khartoum, ça s'appelle Khartoum, mais bon...
C'est au Soudan,
voilà.
Mais c'est bien de le rappeler. On est au Soudan, alors des petits anachronismes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ce qui est déroutant, c'est que ce film, tout le monde parle anglais, hein. Même les Arabes, ils n'ont aucun problème. Le Mahdi qui fait sa déclaration à ses troupes, en anglais.
Oui.
Alors avec l'accent quand même, fort accent, mais voilà. Alors,
est-ce que ça ne vient pas de l'époque à laquelle ça a été tourné?
Quand ils ont tourné Cléopâtre ou quand ils ont tourné C'est nous l'Égyptien, ils parlaient
aussi honnêtement,
anglais.
C'est ce que je me suis dit. C'est vrai que maintenant, on ferait parler en langue. Mais
C'est symbolique de la domination culturelle blanche américaine qui ne conçoit pas le monde... ou anglaise, là, en l'occurrence. En plus, c'est pire, c'est anglais. Donc, qui ne conçoit pas le monde sans que ce soit lui qui ordonne. Charlton Heston, moi, je l'ai trouvé un peu falot dans ce film, un peu pâle. Quand on se souvient que c'est Ben Hur, quand même une sacrée dimension. Qu'on se souvient qu'il a joué dans Soleil Vert de Richard Fleischer et qu'il avait une autre dimension dans ce film-là. Donc, il y a... je l'ai trouvé un peu pâle. Et puis, ce film, il a un truc, la fin est catastrophique.
Tu vas pas divulguer.
Il va faire du spoiling.
C'est une histoire vraie, c'est un biopic. D'ailleurs, comme Laurence d'Arabie, c'est un biopic. Et vu à l'époque à laquelle il est tourné, on peut dire que le héros meurt.
De toute façon, oui, historiquement, voilà. On sait qu'il meurt.
Il est mort. Façon, ouais. Il est mort. Non, mais la fin avec le plan de coupe sur la statue qui vient interrompre complètement le film et puis on nous compte après la fin, je trouve que c'est assez déroutant. Mais c'est un film qui dispose de moyens considérables puisqu'il y a des cavalcades, des dromadaires, des machins. C'est impressionnant les moyens qui ont été mis dans ce film-là.
Et surtout, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les coulisses de l'affaire, notamment au Royaume-Uni, avec un Premier ministre qui est à la fois calculateur, ça nous montre la politique sous un angle qu'on apprécie vraiment.
Oui, c'est ça. Moi, c'est là où j'étais étonnée. Je me suis dit, oh là là, ça va être une vision uniquement impérialiste et non.
Non, non.
C'est ça, j'ai trouvé ça plus fin que ça.
Non, il y a une vision politique.
Oui, oui, vraiment.
Et là, le dialoguiste, il a pris son pied. Faut bien le dire.
Je pense, ouais. Moi, j'ai aimé la retenue de Charlton Heston. C'est subjectif complètement.
Ce qu'il y a, c'est que entre Charlton Heston, qui a l'habitude de, qui est un héros bodybuildé, et Peter O'Toole dans Laurence d'Arabie, qui est un être très filiforme, très passe, mais qui développe une dimension extraordinaire dans son rôle de Laurence d'Arabie. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu fallot. C'est que il me semble un peu. Il correspond presque pas au personnage qu'il est en train de jouer.
Ah ouais, tu trouves? Alors que moi, au contraire, ça m'a fait voyager, quoi.
Enfin, j'ai eu l'impression.
C'est rigolo.
Alors, quand même, tu as dit Soleil Vert de Richard Fleischer, c'est un directeur d'acteur. Enfin, voilà. Oui. Il est un peu plus connu, quand même, que Basil Verdon. Voilà.
Puis encore, à propos de. Tu parlais ce qui t'a choqué au niveau du langage, des langues.
Oui.
Mais c'est vrai que moi, j'ai vu un film l'année dernière ou il y a 2 ans, Le jeune Karl Marx, et j'ai été emporté par ce film, très choqué au début, parce que ça parlait en allemand, ça se passe en Allemagne, ça parlait que allemand. D'un seul coup, en Angleterre, ça parle que anglais. D'un seul coup, ils sont en France, ça parle que français. Et puis, tu t'accroches au sous-titres. Puis d'un seul coup, tiens, il n'y a pas de sous-titres. Et puis, au bout d'un moment...
Je crois que c'est assez récent, cette conception.
Mais c'est un film très, très récent. Le réalisateur s'appelle Raoul Peck.
Oui.
Non, il y avait une vieille série qui s'appelait Shogun de mémoire. Et où, pareil, le héros débarque. Il est hollandais, il débarque au Japon. Et... ça ne parle que japonais et lui, il faut qu'il se mette dans l'esprit de comprendre.
Alors sinon, il y a les Cités d'Or aussi. C'est un dessin animé et ils parlent tous français. Et même quand ils sont en Chine et au Japon, non, on s'en fout.
Oui, on s'en moque un peu. On ne saurait trop vous conseiller quand même Khartoum de Basil Verdon. C'est chez Rimini. Et on va terminer cette série de DVD avec Le quatrième homme de Phil Carson chez Sidonis. Nouvelle réédition, énième réédition d'un film noir fort sympathique et qui, à mon avis, a aussi inspiré quelques autres films des avis.
Moi, je peux... Alors déjà, pour faire le pitch un peu du film, il s'agit d'un hold-up qui est organisé et le responsable du hold-up fait le hold-up parfait puisqu'il n'y a pas, a priori, pas de coupable. Il organise son hold-up de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupable. L'histoire est donc... le thème, ça va être, dans cette aventure-là, un fleuriste qui va se retrouver piégé dans ce hold-up, qui n'a rien à y voir, et qui va conduire l'enquête pour aller jusqu'au terme et la résolution, pour lui en tout cas, pour embrasser, parce que ça je peux le divulguer, il embrasse la comédienne à la fin. Bien, ça on peut le dire.
Oh. Bon, mais t'es un as du spoiling, toi.
Mais c'est un vrai, une vraie série B, la série B comme on l'aime, noir et blanc, clean, avec des acteurs taillés au couteau, une vraie direction d'acteur, un vrai directeur de réalisation. Moi, j'ai aimé, mais c'est comme ça, c'est Lee Van Cleef, le personnage de Lee Van Cleef, que je trouve qu'on va retrouver plus tard dans d'autres films, mais qui déjà compose un personnage, voilà, il a déjà son personnage. Dernière chose qu'on peut dire sur le film. Non, mais je vous laisse la parole.
Pourquoi?
Non, parce que je parle là.
Mais oui, mais nous t'écoutons, nous buvons tes paroles.
Moi, j'avais juste avant de passer la parole, j'avais pensé à Reservoir Dogs en voyant ce film.
C'est-à-dire, ah
C'est-à-dire que t'as quelqu'un qui est au-dessus et qui va faire intervenir plusieurs braqueurs qui ne se connaissent pas les uns les autres, tout ça. Là, c'est avec des masques. Et c'est comme les noms avec Mr. Blue, Mr. Green, des choses comme ça. Voilà, et je trouvais ça plutôt ingénieux.
Et il se dit que Tarantino s'est inspiré de ce film. Hein.
Ah oui, ouais. D'accord. Ok. Oui. Je trouvais que ça tient jusqu'au bout. On est tenu. Après, au niveau technique de jeu, ça a un peu vieilli. Quoi. Moi, j'étais frappée. Mais ça me fait marrer. C'est, il sort, il regarde à droite, il regarde à gauche. Ah, par où vais-je aller? Ah, je tourne à gauche. Bon, ça a vieilli. Ça vient pas des comédiens. Il y a des trucs qui ont vieilli. Mais effectivement, si on le regarde avec, comme tu disais tout à l'heure, on se dit bon, je regarde de la série B. C'est psychologiquement, et moi je savais pas en fait quand je me suis mise dedans, j'ai trouvé ça, j'ai dit au début waouh, ça va peut-être être long, puis en fait non, je me suis fait attraper. Après, c'est vrai que très 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 subjectivement, je suis pas une grande fan de quand il y a, j'allais dire rien de plus, sans être péjorative, que le thème du hold-up ou du règlement de compte ou des choses comme ça. Souvent, j'aime bien avoir un autre ancrage politique ou autre chose. Enfin, voilà. Bon. Mais je trouve que ça se tient quand même super bien, quoi.
Et puis, enfin, moi, je trouve que la mécanique qui est mise en œuvre, donc le hold-up, puis la fuite, puis les retrouvailles, je trouve que cette mécanique, elle est plutôt bien huilée, elle tourne plutôt bien. Enfin, il y a quelque chose... moi, ça me semble vraiment riche. Et puis, le petit côté politique, quand même... Du réalisateur, c'est qu'il il dénonce la malhonnêteté.
Et puis, alors, quand même, ouais, pour mettre un bémol à ce que je disais, j'ai aimé aussi le regard sur... quand t'es un ancien taulard, on te croit plus, quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est fini à vie. Ouais. Même si t'as payé ta dette, c'est quand même fini derrière. Et pour finir, je sais, Julien trépigne, il saute, mais quand même, la comédienne est magnifique, quoi.
Ah.
Je la trouve absolument ravissante. Elle joue super bien.
Colline Gray.
Oui, c'est pas une cruche. C'est quand même suffisamment pour le noter. Et voilà.
Le carrefour de la mort et puis la rivière rouge avec John Wayne.
Mais moi je te parle. Non, mais voilà, c'est quand même.
Oui, mais c'est pas n'importe quelle comédienne.
Certes, mais il y a des fois, c'est pas n'importe quelle comédienne, mais elle a quand même un rôle de cruche.
Toups, un mot, un seul.
Non.
Joker.
D'accord.
Sourdingue, le barde de l'art, car il continue de burler à travers les rues, sa vielle dans les bras, sa vieille sur les bras, son chapeau rond sur la tronche. Il guture drôlement en chantant l'apôtre. C'est peut-être à cause de quoi il n'a pas perçu l'explosion. Toute la populace se draine fissa en direction du phare. Les gosses juchés sur des vieux vélos ferraillants, les jeunes gens à vélo moteur, les adultes en rang, les vieilleries en canne ou béquille, toute la cohorte impressionnante des veuves, noires et blanches comme des pies. Ici, à part une conserverie de sardines, l'industrie principale reste la veuve.
Le lecteur de cette adaptation en livre audio n'est autre que...
De Cône.
Antoine De Cône, grand amateur de San Antonio. La gouaille de l'un au service de celle de l'autre, pour une revisitation de « Si ma tante en avait » de San Antonio. C'est chez Lilzy qui sort par la même occasion la version en livre audio de « Sauvage » de Jamé Bradbury, lu par Carl Lynn Heller. Le roman était le pendant féminin de « My Absolute Darling » de Gabriel Talent, qui vient de recevoir le prix Audiolib 2019. Les deux romans sont parus chez Game Master. Accrochez-vous. Alors, Toups, comment ça jazz?
Comment ça jazz? Eh bien, voilà, la dernière fois, j'ai eu la prétention d'en finir une fois pour toutes avec Charlie Mingus, avec une deuxième chronique, comme si c'était possible d'en finir une fois pour toutes avec Charlie Mingus. Bref. Le hic, parce qu'il y a un hic, c'est qu'il y a aussi des racines, des rhizomes, des associations d'idées, et puis des arborescences. J'ai parlé de Jeff Beck la dernière fois, guitariste de rock au sens large, félicité par Mingus pour sa reprise de Goodbye Purple Hat, mais j'ai pas pris le temps de vous parler des Yardbirds, groupe de rock phare du rock anglais.
Erreur dramatique.
Des années 60. Non, c'est pas une erreur, c'est juste que je savais que j'avais pas le temps. Un groupe dans lequel se sont succédés à la guitare, écoutez bien, Eric Clapton, Jeff Beck, puis Jimmy Page. Et il y a eu même un moment en 66 où Jeff Beck et Jimmy Page ont joué ensemble ça a duré que quelques mois, mais il se trouve que ce duo explosif apparaît dans Blow Up, Palme d'Or à Cannes en 67, le film de Michelangelo Antonioni. À revoir, à revoir. D'ailleurs, vous pouvez aussi revoir Blowout, qui est la reprise par Brian De Palma, qui est une excellente reprise, une excellente relecture. Et on voit Jeff Beck détruire sa guitare et la jeter dans la salle.
Il faisait cinéma, du rock. On dit pas remake.
Reprise
en musique. On dit remake. Excuse-moi.
Non, mais tu as raison, Donc Jeff Beck, c'est quand même quelqu'un qui a ouvert les portes du rock psychédélique parce qu'il était amoureux des sons et il cherchait. Il cherchait et il trouvait. Alors, la dernière fois, j'ai aussi parlé de John Cassavetes, un cinéaste fer de lance d'une nouvelle vague américaine, avec son premier film dans la musique qui était composé par Charlie Mingus. Voilà. Alors, on a parlé de Chinese Bookie, de Gloria, il y a eu Gloria de Nougaro avec Ornette Coleman au saxophone, ce qui m'amènera à parler un jour de la musique que Ornette Coleman a faite pour David Cronenberg dans son film Le Festin Nu. Oui, David Cronenberg, le cinéaste canadien. Mais n'allons pas trop vite, parce que là, c'est des développements, et pour comprendre les développements, il faut comprendre, connaître les fondations. Du coup, c'est l'heure des devinettes. Si je vous dis Laura.
Otto Preminger.
Carmen.
Otto Preminger.
Ambre.
Otto Preminger.
Stéphanie de Monaco.
Stéphanie de Monaco.
Non, Ambre, si je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai vu, cela dit, il y a très longtemps.
Pardon. Oui, tu l'as. Alors, vas-y, continue.
Bon, je vous avais demandé de réfléchir à trois autos célèbres.
Alors, moi, automatique, autoritaire et autodestruction.
Ah non, c'est pas vrai.
Tu as raté le autorino, mais...
Mais j'en avais que trois, alors.
Eh ben, moi, j'ai pensé à Auto de Tommy Ungerer.
Oui, 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 voilà. Excellent, excellent.
Alors, oui, côté intellectuel par rapport à moi, excuse-moi. Non, mais je note, par contre, c'est très intéressant.
Je m'étais dit que vous alliez me parler de Otto Klemperer, le chef d'orchestre allemand qui a enregistré beaucoup pour Deutsche Grammophon.
Non, mais on peut te parler de Otto Frank, le papa de Anne Frank.
J'ai cru que vous alliez me parler de Otto von Bismarck, surtout toi, Linda, puisque Bismarck...
C'est de ta famille?
Non, je parle vraiment allemand.
C'est pas précisément de sa famille, mais disons que comme elle a parlé du cri du peuple, il a fait partie des acteurs indirects de cette...
Mais oui, bien sûr.
Mmh. Il y avait donc Otto dans Un poisson nommé Vanda.
Il y avait Otto dans Un poisson nommé Vanda.
C'était très bien joué, ça.
Et puis, tu peux avoir le peintre Otto Dix.
Absolument. Otto Dix, peintre...
Autodidacte.
On revient au sujet. Toups, reprends les choses.
J'étais dans le sujet, je vous ferais dire.
Non, non, mais t'as perdu le fil.
Oui. Donc, Laura, Carmen, Ambre, Exodus, Rosebud, Porgy and Bess, Rivière sans retour, avec Marilyn Monroe, Autopsie d'un meurtre. Meurtre.
Bravo.
Qui sort bientôt chez Carlotta.
Quelle connexion.
Attention, on va pouvoir en parler. Et donc, si je vous dis, je vous ai demandé de parler d'un titre de noblesse dans le jazz aussi.
Ah, dans le jazz.
Aïe.
Allez-y,
aïe.
Titre de noblesse tout court. Non,
Count Basie.
Oui, le comte.
Alors, Hermann von Reichenau.
Non, c'est pas un titre de noblesse.
Si, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un noble, mais bon, c'est du Moyen-Âge, par contre.
Oui, mais le titre, c'est quoi? Il est prince, il est archiduc, il est roi, il est duc, il est marquis, il est comte,
il est vicomte,
il est baron, il est banneret, il est simple chevalier.
Duke Ellington.
Le duc. Alors, le duc, ça vient de leader, du latin dux, n'est-ce pas? Le leader, en Italie. Ah, il y avait eu un Italien très, très célèbre qui s'appelait Duce. Mais bon, Duc, pour Ellington, c'était parce qu'il était très distingué. C'était la classe. Exemple, il était capable de jouer du piano comme moi, je lis un magazine. C'est-à-dire comme moi, je fais semblant de lire un magazine parce que lui, il souriait. Alors que moi, quand je lis un magazine, je suis obligé d'essayer de comprendre ce que je lis. Très, très, très chaleureux et très séduisant et très raffiné. Dans sa démarche, son élocution, tout son être et sa musique, évidemment. Well, extraordinaire, extraordinaire, cette reprise de East St. Louis Toodaloo. Toodaloo, vous savez ce que ça veut dire, Toodaloo? Toodaloo, 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 c'est du français, ça veut dire à tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, Toodaloo, Toodaloo, voilà. Et bien cette reprise par un groupe de rock californien du nom de Steely Dan en 1972, hommage donc du vivant de Duke Ellington, parce que Ellington est parti en 1974 vers d'autres cieux. Eh bien, ils ont repris quasiment note pour note tous les solos faits par le trombone, la trompette, le machin, avec des instruments. Là, on a, tout à l'heure, on entendait une guitare, slide guitare. Un hommage par un groupe californien. Tout ça pour dire, le jazz, ben, c'est de la musique. Et quand les musiciens, ils entendent, ils savent reconnaître quand c'est de la musique.
À Cotton Club, il nous manque juste quelque chose à boire. Aïe aïe aïe, vous écoutez toujours Radio G sur le 101.5 FM et ses calibre 58. Et nous embarquons, nous, direction Barbès en compagnie de Marc Villard. Le romancier qui sera présent à la librairie Angevine Contact le jeudi 24 octobre à partir de 19h est à l'honneur de la série noire. Sous le titre Barbès Trilogie sont réunis trois romans écrits entre 1987 et 2006 et qui ont pour personnage principal Jacques Transon, un éducateur de rue habillé en treillis qui se balade dans le quartier nord populaire de Paris à bord d'un Ford Transit et qui écoute, tous, tu ne devineras jamais, du jazz. Enfin, personnage principal, pas vraiment. Le véritable personnage principal, c'est la faune qui déambule dans le quartier. Et parmi elles, nombre de paumés désespérants, de petites frappes antipathiques, de putes sympathiques et de flics mélomanes. Alors, ce qu'il y a de bien avec Marc Villard, c'est qu'il sait écrire des intrigues de fiction. La preuve, ce flic qui aime le jazz et qui est potier à ses heures perdues. On ne saurait rêver meilleure évasion. Alors on s'évade, on est un tantinet circonspect quand on découvre les combats de chiens dans Rebelles de la nuit, et puis on se dit qu'on est en 1987. Et puis on est peu à peu amadoué. Marc Villard, c'est un conteur, et il compte bien, au moins jusqu'à 3. Après nous avoir bluffé avec l'assassinat d'un homosexuel musicien, il nous entraîne en compagnie de Fary vers la porte de derrière. C'est là que l'on découvre cet étrange flic, Pradal, et sa passion étrange pour la poterie. Une passion qui ne le sauvera pas tant il sait se faire des ennemis de tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais presque. Et puis, il y a ce retour de Transon dans un court roman paru initialement aux éditions La Branche. Ah ah, édition La Branche, un jeu de mots de Jean-Bernard Puy. Et qui est un hommage pastiché à « Quand la ville dort » de William Riley Burnett et qui décrit une ville gangrenée par le mal. Là, le mal, il est partout. L'adaptation, elle est un peu capillotractée, mais elle fonctionne bien. Et puis, il y a cet hommage à Basquiat avec cette prostituée qui touche du pinceau. En 20 ans, il a un peu changé, Transon, mais pas tant que ça. Il est plutôt sympathique, le genre de héros gris qui vire vers le blanc sans l'être tout à fait, avec ses failles et ses faiblesses. La morale, aujourd'hui, le trouverait con et macho, et pourtant, bah, il n'est pas tant ou pas tant que ça. Et puis, c'est un mécanicien de la mouise. Et Villard, c'est un poète, un esthète.
Reniflard & Co. Mise en scène, Linda Gonin. Avec les voix de Laure Gélin, Toups Bébé et Linda Gonin. Voix du générique, Elouane.
Nous sommes dans le cabinet d'avocats Reniflard & Co. La secrétaire, mademoiselle Fossette, vient d'accueillir un homme nommé Emmanuel Ravelli.
Asseyez-vous. Je vais appeler Monsieur Reniflard. Monsieur Reniflard!
Alors, vous les avez trouvés, ces 10 dollars?
Non, mais il y a un homme ici qui veut vous parler d'un emploi.
Dites-lui que je le prends! Mais pas pour moins de 20 dollars par semaine.
Mais non, il veut que vous lui donniez un emploi ici.
Ah, il veut du travail. Je pense que je peux lui en trouver.
Je ne veux pas du travail! Je veux juste un emploi.
Des références?
Pas besoin, pourquoi? Votre tête, elle me revient.
La vôtre aussi. Dites, vous ressemblez tout à fait à un type que j'ai connu dans le temps, un certain Emmanuel Ravelli. Seriez-vous son frère?
Emmanuel Ravelli, c'est moi.
Se basta se una bella canzone a far piovere amore.
Emmanuel Ravelli, c'est vous?
Emmanuel Ravelli, c'est moi.
Se basta se una bella canzone.
C'est vous, Emmanuel Ravelli?
C'est moi, Emmanuel Ravelli.
Pas étonnant c'est que vous le ressembliez. N'empêche, il y a un air de famille.
Nous n'avons rien dit du salaire.
Parfait. Si vous me promettez de ne pas en parler, je n'y ferai pas allusion non plus.
Ok. Mais, je vais plus.
Je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vous paye 6 dollars par semaine et vous pouvez apporter votre déjeuner de midi. J'irai même plus loin. Je vous donne 6 dollars par semaine et vous pouvez aussi m'apporter mon déjeuner.
6 dollars la semaine? 6? Un patron! Je n'y peux pas vivre avec 6 dollars par semaine.
Non? Magnifique. Je vous engage.
Quand je commence?
Eh bien, il est 1h. Si vous commencez tout de suite, vous pouvez être de retour à 3h avec le déjeuner. Un sandwich à la tomate pour moi.
Je n'ai pas du pain. J'ai du blé.
Amenez le blé, alors.
Je n'y peux pas. Il me fait mal.
Il vous fait mal?
Si, c'est un blé dur.
Non, mais qu'est-ce que vous faites?
Du yoga. Vous avez de l'expérience?
Et comment? 15 ans que je connais la musique.
Vous touchez combien?
10 dollars de l'heure quand je joue d'un instrument.
Et quand vous ne jouez pas?
12 dollars de l'heure.
Ah, c'est plus vraisemblable.
Pour les répétitions, c'est vous faire un prix d'amis. Eh bah, 15 dollars de l'heure.
Et pour ne pas répéter?
Oh, ça, ce n'est pas dans vos moyens. Si ne répète pas, je ne joue pas. Si je ne joue pas, l'addition devient salée.
Ça coûte combien de vous renvoyer au gîte?
Tout est découvert.
Eh bien, débarrassez le plancher!
Top là!
C'est ce que j'appelle jouer franc jeu.
Bah non, rien n'est pas plus. Faisons les comptes. Hier, je ne suis pas venu. Vous m'aidez 15 dollars. Aujourd'hui, je ne viens pas.
Vous m'en devez 20.
Ah, demain, je quitte. Ça vous m'a...
1 million de dollars. Mais assez chicané. Je vous ai offert 6 dollars, je vous en prends 2.
Vous m'en prenez 2, c'est relance des toits.
Carte sur table, qu'avez-vous?
Des as et vous?
Désastre, c'est vous. Je vais vous jeter dehors.
Pas bene. C'est reste.
À suivre.
Vous écoutiez le nouvel épisode de notre feuilleton radiophonique Reniflard & Co. Quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, quelques brèves qui nous intéressent et nous interpellent plus particulièrement. Demain à 19h, à la bibliothèque d'Ingrande de Fresnes sur Loire, j'animerai le premier mercredi polar de la saison consacré aux éditions Asphalt. Elles ont bientôt 10 ans et on causera de littérature urbaine et nomade. Alors venez nombreux. Toujours à la bibliothèque d'Ingrande Le Fresne-sur-Loire qui a une activité fabuleuse, le mercredi 16 octobre et toujours à 19h, ce sera une rencontre littéraire et musicale avec Emmanuel Ruben, un saxophoniste qui participe à l'émission et un harpiste qui n'en fait pas partie.
Je dirais même un mystérieux saxophoniste.
Et oui, avec animation par Bibi et déambulation jusqu'à la route du sel. Alors venez très nombreux. voire très très nombreux. Sinon, on aurait aimé vous parler, et je pense que Luc aurait été d'accord, de Félix Vallotton, mis en texte par Jean-Philippe Toussaint aux éditions Martin de Halleux. On aura sûrement l'occasion d'en reparler un petit peu, mais le temps nous a manqué. Aïe, aïe, aïe. Il nous reste quelques minutes. Alors, si on demandait au saxophoniste mystérieux ce qu'il en sera de cette... cette rencontre à la librairie, bibliothèque d'un grand Le Fresne-sur-Loire.
Voyons, Julien, ressaisis-toi.
Ben moi, je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il y a un écrivain qui vient pour présenter un livre. Alors, le livre s'appelle Sur la route du Danube.
Non, il s'appelle En remontant le Danube.
Non, Sur la route du Danube.
Bon.
Et effectivement, ça raconte comment il a remonté le Danube à vélo. Jusqu'à Strasbourg.
Donc, 4 000... Ça fait moins exotique tout de suite.
Non, mais 4000 km à vélo avec...
Le Danube passe à Strasbourg.
Regarde bien.
C'est les nouveaux concepts de la géographie.
Ah, d'accord.
Oui, c'est étonnant.
Non, mais alors il faut bien dire que cet ouvrage, qui est un récit de voyage, a reçu un prix à Étonnant Voyageur à Saint-Malo, qu'il a eu un grand succès d'estime auprès des libraires, qu'il est édité chez Rivage. Et si je ne me trompe, un festival toulousain a fait commande d'une lecture musicale. Et donc, voilà, il y a une histoire qui s'est faite à un grand.
Et oui, parce qu'Emmanuel était venu voir un duo, harpe, sax, percussion. Oui, un duo à deux personnes. Et puis,
tu peux dire avec qui, quand même ? François Pernel.
Oui,
François, à la harpe.
François Pernel, un harpiste extraordinaire, avec un son fabuleux.
Eh bien, rendez-vous le 16 octobre. Et maintenant, on se quitte. La semaine prochaine, place à nos amis d'imaginaire et non pas nos amis imaginaires. Nous, on se retrouve dans 15 jours et maintenant, c'est ça dégouline dans le cornet normalement. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne nuit.
Son 1.5 FM.